Théologie mystique à Rimont, le 27 juillet 83.
Qu'elle soit là pour veiller auprès de nous et nous aider à être très fidèles. Alors mettez toutes vos intentions, des intentions multiples. Je crois qu'il faut demander à Marthe de nous aider dans nos prières et dans nos intentions particulières. Il y a beaucoup d'intentions. Il faut lui confier cela. Et comme si on allait la voir. On avait des difficultés spéciales, on allait voir Marthe, on lui confiait, on savait que Marthe portait ça dans son cœur, et on repartait avec une confiance nouvelle. Je crois qu'il faut continuer d'avoir cette même confiance. Mettre cela dans son cœur par la prière et repartir avec une confiance totale. Alors nous allons continuer, si vous voulez, cette à essayer de pénétrer plus avant dans ce troisième moment de cette période de la vie apostolique de Jésus, ses éclosions, et bien comprendre ce qui nous est montré là au point de vue théologique. Mystère de l'agneau, mystère de l'époux, mystère du Fils bien-aimé. Et c'est Jésus lui-même qui se présente, c'est pas Jean-Baptiste. Très important de comprendre cela. Jean-Baptiste, au terme de la grande attente, nous aide à découvrir le mystère de l'agneau. Il nous aide à découvrir le mystère de l'époux. Mais c'est Jésus lui-même qui nous a introduit dans le mystère du Fils bien-aimé. C'est très significatif, vous voyez, si on veut saisir. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il est sous la mouvance du Saint-Esprit. Et il termine la grande attente du prophète Isaïe. Il termine la grande attente du patriarche Abraham. Tout cela comporte Jean-Baptiste, il porte tout ça en lui. Il ne peut pas nous donner la plénitude. Il nous met au seuil de façon merveilleuse. C'est bien Jésus qui est l'agneau, c'est bien Jésus qui est l'époux. Mais si Jésus est l'agneau et l'époux, c'est parce qu'il est le Fils bien-aimé. C'est parce qu'il est le Fils bien-aimé. C'est ce mystère du Fils bien-aimé, de ses liens avec le Père, de ses liens avec le Verbe, de ses liens avec l'Esprit-Saint. Il est lié aux trois. C'est bien parce qu'il est lié aux trois d'une manière unique et personnelle qu'il peut être l'agneau, il peut être l'époux. C'est donc cette dernière révélation qui nous introduit pleinement dans la nouvelle alliance et qui nous fait comprendre comment tout s'achève dans l'alliance du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. de cela qui est comme le secret que nous devons découvrir de plus en plus. C'est cela qui nous importe. On vend tout le reste hein, pour découvrir cela et pour vivre de cela. Parce que c'est vraiment là où nous découvrons ce qu'il y a de tout à fait personnel, Jésus. Et vous voyez, si on pousse encore un tout petit peu plus loin, on verra progressivement combien l'évangile de Jean nous révèle le sacerdoce de Jésus. Exactement comme l'Apocalypse. Puisque l'Apocalypse commence par la grande vision de Jésus dans la gloire. Et cette vision de Jésus dans la gloire, c'est Jésus grand prêtre. C'est une vision que nous avons toujours à l'Église. C'est Jésus avec cette robe de lin, avec la ceinture d'or, qui symboliquement représente le grand prêtre. Et ça, c'est la grande vision d'Apocalypse. Apocalypse montre que la gloire du Christ, c'est la gloire du prêtre. Gloire du grand prêtre. De sorte que si je suis attentif au déroulement de l'évangile de Saint Jean, si je suis attentif à ce qui est dit dans l'Apocalypse, je crois que nous pouvons dire que Jean nous révèle le mystère du sacerdoce du Fils bien-aimé. Parce que ce sacerdoce du Fils bien-aimé, à la différence du sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce d'amour. C'est un sacerdoce d'amour et de surabondance d'amour. C'est pour ça que ce sacerdoce implique l'offrande de Jésus lui-même. Seul le Fils bien-aimé peut offrir sa vie. Dieu seul peut offrir sa vie. Seul le Fils bien-aimé, dans son sacerdoce, peut être l'époux. Seul le Fils bien-aimé, dans son sacerdoce, peut être l'agneau. Et alors nous comprenons mieux ce double symbolisme de l'agneau et de l'époux qui caractérise le sacerdoce de Jésus. Sacerdoce d'amour, sacerdoce de vie et d'amour. C'est donc un sacerdoce qui réclame que Jésus soit offert lui-même, qu'il offre sa vie, et qu'il l'offre pour glorifier le Père et nous sauver. Alors nous comprenons l'époux et nous comprenons l'agneau. Vous voyez, comme tout ça se tient au point de vue théologique. Encore une fois, je peux regarder l'écriture uniquement d'une manière descriptive. Si je la regarde d'une manière purement descriptive, alors je vois les choses successives. Si j'essaie de comprendre cet ordre de sagesse qui nous est montré nettement, l'agneau, l'époux, le fils. Si nous voulons comprendre cet ordre de sagesse, alors nous comprenons que c'est ce dernier moment, c'est parce qu'il est le fils bien-aimé du Père, en qui le Père a mis toutes ses complaisances, que nous pouvons saisir le mystère de Jésus époux et que nous pouvons saisir le mystère de Jésus agneau, que nous pouvons saisir comment, de fait, dans son sacerdoce royal de fils bien-aimé, il s'offre lui-même. Il ne peut plus se servir du sang des taureaux et des boucs. Il s'offre lui-même. C'est l'époux. Glorifier le Père et nous sauver. Et comme agneau, il accepte d'être immolé. Il accepte d'être immolé et il s'offre lui-même. Hein, voyez bien la nuance. Il s'offre lui-même en offrant toute sa vie. Et il est immolé comme agneau. Et il accepte d'être immolé pour porter toute l'iniquité du monde. Et tout cela parce qu'il est le Fils bien-aimé. Jésus nous montre donc son lien avec le Père. il nous montre ce qu'il est lui-même et le lien avec l'Esprit Saint. Et c'est facile à découvrir, c'est tout simplement la ponctuation des Amen, Amen qui nous font découvrir ça. Et presque tous les grands discours du Christ, on peut découvrir le caractère propre de sa révélation de Fils bien-aimé qui nous révèle le lien avec le Père, le lien avec le Verbe, le lien avec l'Esprit. Et au terme, ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. Donc le mystère de la résurrection implique ces deux orientations. L'orientation de la gloire, victoire de l'amour, et l'orientation de la gloire qui est en vue d'une résurrection. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement à moi est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est aussi très important, cela. Jésus reprend cette seconde vague, en quelque sorte, puisque c'est très net qu'il y a la même reprise. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Donc nous pouvons mettre en parallèle ce verset 30 avec le verset 19. Et des deux côtés, nous voyons qu'il est affirmé la pauvreté royale du Christ, la pauvreté radicale du Christ. Il ne peut rien faire de lui-même, volontairement et dans l'amour. C'est vraiment le mystère de la pauvreté, cela. Nous savons, hein, théoriquement. Pratiquement, c'est plus difficile. Mais nous savons théoriquement, c'est sûr, pour rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut bien comprendre que Jésus l'a vécu pleinement et totalement à l'égard du Père. Il nous fait vivre la même chose à son égard. Cet état de pauvreté radicale. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il ne s'agit pas simplement, vous voyez, de dire, l'obéissance, c'est très simple, je prends mes initiatives, puis j'en réfère après. Donc je suis dans de l'obéissance. Non, ce n'est pas ça l'obéissance ici. C'est une obéissance substantielle de vie. C'est net. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et notre obéissance à l'égard de Jésus doit être du même ordre. Donc à l'égard de l'Esprit Saint. C'est une obéissance radicale qui fait que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et nous vivons dans cette dépendance. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement à moi est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc ici est explicité d'une manière très grande la manière dont Jésus vit dans cette dépendance. Selon ce que j'entends, je juge, je discerne. Et mon jugement à moi est juste. Son jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Qu'est-ce qui nous permet d'être dans la vérité pratique? C'est de ne chercher que la volonté de Jésus. Comme Jésus est dans la vérité parce qu'il ne cherche que la volonté de celui qui l'envoie. On est vrai dans l'ordre pratique, quand on est en conformité plénière à la volonté du Père. si on n'est pas en conformité plénière à la volonté du Père, on n'est pas dans la vérité pratique. Il peut y avoir des vérités spéculatives, heureusement, mais la vérité pratique de notre vie. Nous ne sommes vrais dans notre vie que dans la mesure où nous cherchons à accomplir pleinement la volonté du Père. Alors nous, nous faisons dans la foi sans avoir quelquefois la lumière suffisante, alors nous marchons à tâtons, nous essayons de faire comme nous pouvons, mais nous avons au moins cette attitude au plus intime de notre cœur, cette attitude qui consiste dès que nous découvrons la volonté du Père sur nous, nous faisons tout pour réaliser cette volonté. Et dès que nous voyons que ce que nous avons pensé être la volonté du Père n'est pas la volonté du Père, nous l'abandonnons. Ça, vivre d'une manière vraie. Autrement, on n'est pas dans la vérité. On fait ce que il nous semble bon. C'est pas suffisant. Pour être un envoyé du Christ, il faut avoir le souci de tout le temps nous référer à la volonté de Jésus et à la volonté du Père. Alors à ce moment-là, notre vie est vraie. C'est très net, hein. Je ne puis, moi, rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je discerne, je juge. Et mon jugement à moi est juste parce que je ne cherche pas ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Nous allons avoir ici une petite théologie du témoignage. C'est intéressant, vous voyez bien le contexte. Hein. On condamne Jésus parce qu'il a guéri cet infirme le jour du sabbat. Et Jésus se justifie au sens très très fort. Jésus montre qu'il a bien agi parce qu'il agit conformément à la volonté du Père. Il sait très bien que pour ceux qui l'écoutent, c'est l'argument suprême. Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Donc quand on veut se justifier soi-même, notre témoignage n'est pas vrai. C'est vrai, on ne peut pas se justifier soi-même. On a qu'à se taire, c'est tout. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Et je sais qu'il est vrai le témoignage qu'il aura à mon sujet. Donc il faut faire appel à un autre qui témoigne à notre sujet. Ceci, c'est vrai universellement. Hein. Et on sent très bien que Jésus donne ça comme une grande lumière sur le mystère du témoignage. Qu'est-ce que c'est que témoigner? Si c'est moi qui témoigne à mon propre sujet, mon témoignage n'est pas vrai. Il n'a aucun caractère d'authenticité. Nous dirions ça aujourd'hui. Il n'est pas vrai. C'est un autre qui témoigne à mon sujet. Et je sais qu'il est vrai le témoignage qu'il rend à mon sujet. Vous avez envoyé, vous, des messagers à Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je tiens le témoignage. Mais j'ai dit cela pour que vous soyez sauvés. Jésus ne s'appuie pas sur le témoignage de Jean. Important aussi de se rappeler ça, parce que vous savez, l'interprétation de certains. Jésus est disciple de Jean. Et Jésus achève tout simplement ce que Jean avait annoncé. Très bien, comment on peut dire ça? Alors, à ce moment-là, Jésus ne pourrait plus nous dire cela. Il serait un menteur. Si Jésus s'appuie sur le témoignage de Jean, si Jésus est le disciple de Jean, il s'appuie sur le témoignage de Jean. Quand on est disciple de quelqu'un, on s'appuie sur son témoignage. C'est le propre, justement, d'être disciple de quelqu'un. vous avez envoyé, vous, des messagers à Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous ayez, pour que vous soyez sauvés. Vous devez vous aider de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste joue un rôle très important par rapport au peuple d'Israël, parce qu'il est au terme, et qu'il est pleinement du peuple d'Israël. Alors il joue un rôle très important. Jésus montre bien que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas à cause de lui. Jésus n'a pas besoin de Jean-Baptiste. Mais nous, nous en avons besoin. Et le peuple d'Israël avait besoin de Jean-Baptiste. Mais Jésus n'a pas besoin de Jean-Baptiste. Il ne s'appuie pas sur Jean-Baptiste. Ce que Jésus nous dit ne s'appuie pas sur l'autorité de Jean-Baptiste. Une autorité plus facile à accepter que celle de Jésus pour le peuple d'Israël. Parce qu'il est pleinement dans la grande attente. C'est pour ça que l'autorité de Jean-Baptiste facile à accepter l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est donné. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Que vous soyez sauvés, c'est-à-dire que vous receviez le témoignage de Jean-Baptiste. Et en recevant le témoignage de Jean-Baptiste, vous considériez que Jésus, c'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et nous sommes sauvés dans la mesure où nous adhérons pleinement à Jésus comme agneau qui porte l'iniquité du monde, parce qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous, il vous a plu d'exulter un moment à sa lumière. Le témoignage de Jean-Baptiste ne dure pas. Il est un témoignage limité. Il est la lampe qui brûle et qui brille. Il est la lampe, il n'est pas la lumière. Il est celui qui rend témoignage à la lumière, selon le prologue. Il est la lampe. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous, il vous a plu d'exulter un moment à sa lumière. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Très beau. Bien saisir les rapports entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Pour montrer combien Jésus a une autonomie plénière. C'est important. Il reprend tout. Autrement, il s'appuierait sur le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que le témoignage de Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, si c'est le plus grand de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, si Jésus s'appuyait sur l'Ancienne Alliance, il devrait s'appuyer sur Jean-Baptiste. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a donné pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui donne ce témoignage. C'est les œuvres de Jésus. Donc l'indépendance de Jésus à l'égard de Jean-Baptiste, cette liberté complète de Jésus à l'égard de Jean-Baptiste va se manifester à travers les œuvres que Jésus fait. Parmi ces œuvres, c'est la guérison de l'infirme à la piscine de Bethsaida. Très étonnant, ça. Les œuvres de Jésus, les miracles de Jésus, l'enseignement de Jésus, c'est plus que le témoignage. Parmi ses œuvres, évidemment, c'est la croix et la résurrection. Parmi ses œuvres, de façon éminente, de façon toute unique, c'est le mystère de la croix et le mystère de la résurrection. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je, ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'envoie. Mais le seul témoignage que nous devons chercher, c'est de comprendre que c'est le Père qui a envoyé son Fils. Jésus est le Fils bien-aimé. C'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, celui-là a témoigné à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage et sa parole. Vous ne l'avez pas et sa parole. Vous ne l'avez pas qui demeure en vous, parce que celui qui l'a envoyé, vous ne le croyez pas. Vous voyez comment Jésus nous montre la voie d'accès à son mystère de Fils bien-aimé. Parce que le témoignage, c'est la voie d'accès. Le témoignage, c'est pour les hommes. C'est pour les aider à découvrir le mystère de Jésus comme Fils bien-aimé. Et Jésus nous indique ici, hein, et nous l'indique au moment où, justement, la discussion est particulièrement véhémente. C'est pas dans un moment de paix, c'est un moment de lutte où Jésus nous fait cette révélation. Un autre qui témoigne à mon sujet. Ce n'est pas d'un homme qui rend mon témoignage. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus. Mais Jésus ne s'appuie pas sur le témoignage de Jean-Baptiste. Donc l'autre n'est pas Jean-Baptiste. L'autre, c'est le Père. C'est l'homme, c'est le très grand mystère. Parce que le Père, personne ne l'a vu. Et le Père rend témoignage. C'est là où c'est difficile, bien saisir au point de vue. Même très importante, c'est un des grands lieux. Jean-Baptiste est montré dans toute sa force, sa dignité, sa grandeur. Il était la lampe qui brûle et qui brille. Ce n'est pas lui qui illumine Jésus. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet. C'est le Père qui m'a fait. Toutes les œuvres de Jésus. Toute sa vie apostolique. Vous voyez, une nouvelle dimension pour regarder la vie apostolique de Jésus. Nous avons vu comment toutes les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père. Et ici, il nous est montré que toutes les œuvres de Jésus témoignent qu'il est l'envoyé. Si toutes les œuvres de Jésus sont les œuvres du Père, on comprend que toutes les œuvres de Jésus vont donner ce témoignage. Très intéressant de bien voir ça, comme dimension théologique. On se le posera de temps en temps, parce que c'est intéressant. C'est Jésus lui-même qui nous montre comment nous devons regarder sa vie apostolique. Pour moi, le témoignage que j'ai est plus grand que celui de Jean. Les œuvres que le Père m'a données, pour que je les accomplisse, ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Dernier témoignage, le plus intime. Et le Père qui m'a envoyé, celui-là, a témoigné à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage. Et sa parole, vous ne l'avez pas qui demeure en vous. Parce que celui qui l'a envoyé, si vous receviez Jésus, vous recevriez la parole du Père. Vous receviez Jésus comme Fils bien-aimé du Père, comme Fils unique du Père. Je crois que si on reçoit Jésus, on reçoit le Père. Donc vous voyez les deux témoignages, les œuvres du Père. Un témoignage visible, un témoignage invisible. Vous allez dire, c'est quoi le témoignage du Père? Ainsi dans votre soif. Qu'est-ce que c'est dans notre vie, le témoignage du Père? Je crois que c'est... C'est ce que nous pouvons dire. Puisque le Père ne se révèle à nous qu'à travers son activité. L'activité pour nous. Il ne peut pas se révéler autrement. Il se révèle de cette façon. Et de cette façon, nous entendons son témoignage. Et de cette façon, nous comprenons. Jésus est le Fils bien-aimé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez, vous, qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Vous voyez bien. Le témoignage du Père est à travers la parole. À travers la parole divine. À travers la parole divine, le témoignage du Père est présent. Ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Alors là, il y aurait quelque chose de très important à voir. Hein. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez, vous, qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas la parole divine. C'est beau, ça. C'est très fort, du reste. Hein. Ça nous fait comprendre ce que c'est que notre vie contemplative. Notre vie contemplative ne s'arrête pas à l'écriture. Notre vie contemplative remonte à la source de l'écriture. C'est Jésus que nous contemplons. C'est le Père que nous contemplons. C'est l'Esprit Saint que nous contemplons. Nous ne contemplons pas l'écriture. Nous nous servons de l'écriture. Notre foi s'en nourrit. Mais ce n'est pas l'Écriture qui nous donne la vie. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez, vous, qu'en elles, vous avez la vie éternelle. En elles. Et ce sont elles qui témoignent à mon sujet. L'Écriture s'efface devant Jésus. Dans toute Écriture, dans toute parole divine, il y a le mystère du Verbe. Et c'est bien les Écritures. Ce sont elles qui témoignent à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas. On met un frein à la tendance profonde qui ferait que la foi, à travers l'Écriture, adhère à Jésus. Et si on adhère à Jésus, alors on a la vie. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire venant des hommes. Mais j'ai connu que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Jésus qui scrute les reins et les cœurs. Jésus qui connaît les intentions profondes. Et Jésus ici nous dévoile. Je ne reçois pas de gloire. Normalement, selon l'évangile de Saint Jean, la gloire qui vient des hommes est le plus grand obstacle à la vie contemplative. Et le plus grand obstacle à une foi vivante et contemplative. C'est la gloire que nous recevons des hommes. Le philosophe, le vieil Aristote, disait qu'il fallait être magnanime dépasser la gloire qui vient des hommes. Et pour lui, cette vertu de grandeur d'âme ne pouvait exister que s'il y avait la contemplation. Ce qui est vrai au niveau humain et philosophique est encore beaucoup plus vrai au niveau divin. Le grand obstacle à la contemplation, c'est la gloire. Ah, c'est très net. Il y a comme un arrêt. Il y a quelque chose qui fait que... Il s'est dit du reste, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres, et la gloire qui vient de Dieu unique, vous ne la chercherez, vous ne la cherchez pas. Si on se cherche la gloire les uns des autres, la mafia, alors on cherche les gloires des uns des autres. Donnant, donnant. Que ça se fait. Alors, quand on fait donnant, donnant, vous faites telle chose, vous faites un livre, moi je ferai une très bonne recension. Mais si j'écris, vous ferez vous aussi une très bonne recension. Oui, très bien, donnant, donnant. Et alors au bout d'un certain temps, on ne cherche plus la vérité. On est ligoté. Et le jour où on est ligoté, justement, dans cette espèce de mafia, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de liberté d'amour. Je crois que c'est ça là que Jésus veut dénoncer. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas la gloire venant des hommes. Mais j'ai connu que vous n'avez pas en vous-même l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom. Celui-là, vous le recevrez. Au fond, on est friand de l'originalité. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui vient de la part du Christ, n'invente pas. Il communique ce qu'il a reçu. Il donne ce qu'il a reçu. Donc, il n'y a pas d'originalité. Tandis qu'au contraire, quand on ne cherche pas la gloire de Dieu, qu'on cherche sa propre gloire, alors on peut chercher la vérité. On peut chercher l'originalité pour l'originalité. On ne cherche plus à être vrai. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire des uns des autres, et la gloire qui vient du Dieu unique, vous ne la cherchez pas. La gloire qui vient du Dieu unique, la gloire qui est celle du Dieu unique, qui est celle du Père, vous ne la cherchez pas. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Si vous croyez Moïse, en effet, vous ne croirez, vous me croirez aussitôt, car c'est de moi qu'il a écrit. Et si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Très étonnant, hein? Ça c'est un passage qui est difficile, parce qu'au point de vue théologique, il est très dense, mais il est très important. Il est très important au point de vue du discernement de ce que c'est que la foi chrétienne. Au point de vue du discernement que Jésus lui-même nous fait, vous voyez, le scapel divin qui est poussé jusqu'au bout vers ce discernement d'amour. Hein? Et pour nous, par le fait même, pour garder notre foi intacte, notre foi chrétienne parfaite. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres, et la gloire qui vient de Dieu unique, du Dieu unique, vous ne la cherchez pas. Vous ne cherchez qu'une seule gloire, la gloire. Et vous la cherchez de ceux qui vous ont promis de vous la donner. C'est réciproque, vous voyez, une réciprocité dans la gloire, une réciprocité dans se glorifier d'être glorifié. Comment pouvez-vous croire? Donc, il nous est montré ce moment tout à fait particulier où Jésus dénonce l'incroyable. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres, et la gloire qui vient du Dieu unique, vous ne cherchez pas. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Non. Quelqu'un qui vous accusera, Moïse. Moïse, il accepte tous. Eh bien, s'ils acceptent tous Moïse, ils devraient accepter Jésus. C'est comme impliqué directement dedans. C'est comme une logique interne de la sagesse divine. Elle est montrée ici, ce n'est pas une logique. Proprement logique, c'est un ordre de sagesse. votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Si vous croyez Moïse, en effet, vous me croiriez aussi. Ça, c'est très fort. La foi de l'Ancien Testament demande de s'expliciter dans le Christ. La foi en Moïse demande de s'expliciter dans le Christ. Et si, de fait, elle ne s'explicite pas dans le Christ, c'est à cause d'un a priori. Parce qu'elle devrait aller jusqu'au bout des exigences de sa foi. C'est Moïse en qui vous avez mis, vous, votre espoir. Si vous croyez Moïse, en effet, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Et alors, toute la grande exégèse de Moïse, faite en un mot, ici, par Jésus. La grande intention de Moïse, c'est de conduire à Jésus, de conduire au Sauveur. Et on comprend très bien. Moïse tirait des eaux. Moïse Sauveur. Tirait des eaux. Si vous ne croyez pas ces écrits, comment croyez-vous mes paroles? Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on voyait les signes qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Jésus gravit la montagne, et là, il s'asseyait avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Nous commençons là, un chapitre 6, dans lequel nous n'allons pas entrer. C'est à partir de là, je crois, qu'on peut dire qu'on entre dans le second moment de la vie apostolique de Jésus, c'est-à-dire les grands lieux. Et vous le verrez à travers le chapitre 6. Intestine. Au milieu de vous, il y a un démon. C'est Jésus qui dénonce qu'il y a un apôtre qui fait la division parce qu'il ne croit pas. Ce qui est important, je crois, pour nous, vous voyez, dans ce grand discours de Jésus, ce discours trinitaire de Jésus, c'est de voir à la fois son regard sur le Père, de fils bien-aimé. Et en même temps, cette théologie du témoignage. Vous voyez tout de suite, pour ceux qui s'intéressent à la théologie du témoignage, et on doit toujours s'intéresser à la théologie du témoignage. Comment devons-nous rendre témoignage? Dieu n'a pas besoin de nous, c'est bien évident. Mais Dieu se sert de nous. Et Dieu se sert de nous pour, justement, que la lumière puisse être transmise. Que l'amour puisse être transmis. Et alors vous voyez que cette théologie du témoignage, elle implique des plans très différents. Nous n'avons pas le droit de rejeter le témoignage de Jean-Baptiste. Bien que Jésus dise qu'il n'en a pas besoin. Et Jésus l'a voulu pour Israël. C'est pour ça qu'il l'a voulu. Et pour nous. Toujours besoin, nous, parce que nous sommes des êtres qui doivent grandir, des êtres qui doivent aller jusqu'au bout de la révélation. Et ce qui est sûr, c'est que Jésus s'appuie sur ses œuvres. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la gloire est juste. Et que Jésus veut volonté expresse de Jésus. Le Père qui rend témoignage de Jésus, le Père nous rend témoignage au plus intime de nous, que c'est Jésus envoyé. Je crois que c'est ce que nous devons demander, ça, pour notre foi contemplative. Les œuvres, très bien, c'est pas ça le dernier critère. le dernier critère, c'est l'action du Père en nous. C'est l'action du Père sur son Fils bien-aimé. C'est l'action vraiment du Père sur Jésus et sur nous. L'action apostolique, c'est nécessaire. Mais il y a quelque chose de plus. Père, c'est une attraction. Le Père nous attire.